La course relais de l'information sportive, c'est sur Radio Okapi. Nanambala, au démarrage, passe le relais à deux de l'Ekabé en Galula, qui fonce vers le micro et le passe à Kalif Mukongo Sambouy. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Mulumbala attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et... Victoire. Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches, à partir de 15h, vers le Kinshasa.
J'ai dans ce studio deux invités. Avec eux, nous allons parler des démarches à suivre pour entrer compte des études en Europe. J'ai en face de moi Didier Verlave, consul belge en RDC. Bonjour Didier.
Bonjour Didier.
Alors nous avons aux côtés de Didier Manuel Olivier, directeur des services étudiants étrangers au ministère de l'Intérieur en Belgique. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Voilà, Manuel, pas Emmanuel. Alors nous allons ensemble avec vous parler de ces démarches à suivre pour entrer compte des études en Europe. On sait étudier en Europe ou encore poursuivre des études universitaires dans le vieux continent, c'est le rêve de certains Congolais, mais il faut savoir qu'il y a des conditions et des formalités à remplir, autrement vous allez perdre énormément du temps et votre argent également. Alors que faut-il faire pour ne pas passer à côté de la plaque? Donc nous avons dans ce studio, comme je l'ai dit, nos deux invités. D'abord je commence par le premier, Didier. Quelle démarche suivre pour aller étudier en Europe?
Eh bien, il faut d'abord avoir un projet qui tienne la route, c'est-à-dire un projet sérieux d'études en Europe. Quand on parle d'études en Europe, ça signifie des études universitaires ou post-universitaires, rien d'autre. Actuellement, la législation favorise les études universitaires en Belgique ou ailleurs en Europe.
Ben alors, combien de temps à l'avance faudrait-il s'y prendre pour obtenir cette inscription, par exemple, dans une des universités de l'Europe?
Eh bien, la première démarche, c'est d'avoir un projet, choisir ses études, prendre contact personnellement avec l'université et obtenir une inscription à l'université. Et alors, à ce moment-là, la démarche pour le visa peut commencer.
Mais c'est pas facile, pour les étrangers.
C'est aussi facile que pour un étudiant en Belgique qui va choisir des études parce que ça nécessite une démarche personnelle. Et un petit Belge ou un petit Congolais ou un petit Camerounais, quand je dis petit, 18 ans, mais bon, c'est tous des enfants, doit en fait faire une démarche personnelle pour bien choisir le type d'études qu'il souhaite faire. Et il se prépare, comme tout un chacun, peu importe où on se trouve.
Alors c'est une occasion pour les auditeurs qui nous suivent en ce moment, à travers le pays, qui ont tenté par plusieurs fois peut-être à obtenir une inscription dans une des universités de l'Europe, et cela n'a pas été facile. Et c'est une occasion, nous avons en face de nous nos invités, des personnes attitrées pour éclairer notre lanterne à ce sujet. Et vous pouvez nous appeler au 081 890 103 94 pour les appels et au 081 070 20 50 pour les SMS. Manuel, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez nous faire une idée claire sur les filières qui s'offrent aux étudiants, aux petits Congolais, aux petits Camerounais, bref, aux petits étrangers qui aimeraient bien suivre la formation en Europe? Quelles sont les filières qui s'offrent à eux?
Mais comme l'a dit Didier, c'est essentiellement l'enseignement universitaire. Donc toutes les différentes filières qui existent et toutes les différentes facultés qui existent dans les universités en Belgique s'offrent à eux. Donc la première démarche à faire, évidemment, de prendre contact avec l'université et de déposer auprès de cette université un dossier complet comprenant les diplômes obtenus ici au Congo. Et faire aussi la démarche d'équivalence du diplôme.
Est-ce qu'en Belgique, on peut faire le même cursus d'études que dans d'autres pays européens?
Oui, tout à fait, oui.
Par exemple, en France, les mêmes cursus?
Oui, les cursus, en fait, l'Europe s'est harmonisée point de vue études universitaires. On appelle ça la filière de Bologne. C'est-à-dire que peu importe où l'on étudie en Europe, les diplômes sont équivalents partout. On appelle ça la réforme de Bologne. C'est-à-dire, toutes les études ont la même durée et le programme est relativement intégré avec des spécialités en fonction de certains pays.
La licence, c'est 3 ans ?
Non, la licence...
4 ans ?
On parle plus de licence, on parle de baccalauréat, 3 ans. et de master 2 ans en plus. Donc, la vieille licence n'existe plus en 4 ans, hein, ce que vous avez probablement fait, ce que nous avons fait. Maintenant, le master, c'est 5 ans.
C'est 5 ans. Est-ce possible de continuer des études dans un pays hors de l'Union européenne, disons un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, quand on est étranger, par exemple, et puis bon, finalement, on se décide, que ce soit pour le Belge, hein, pour le Belge qui aimerait bien aller étudier ailleurs.
Bien sûr. Emmanuel pourra confirmer que la filière Erasmus est un plan qui a été mis en place par l'Union européenne et dont les étudiants étrangers qui étudient en Europe peuvent bénéficier aussi pour aller passer en fait 6 mois en dehors de leur université habituelle. Ça peut être le Japon, ça peut être les États-Unis, moyennant bien entendu une préparation et des conditions normales d'obtention d'un visa. Le visa ici, ça n'est pas considéré comme un prix, c'est simplement une série de conditions préalables, diplômes, inscriptions et malheureusement conditions financières pour pouvoir payer les études en Europe ou ailleurs.
Oui, mais je sais que Manuel est mieux placé pour nous expliquer un peu comment, quelles sont les procédures à suivre pour obtenir réellement les visas d'études. Mais on revient d'abord à vous, Didier. Un étudiant, par exemple, qui est en deuxième année de médecine au Congo, et qui souhaiterait étudier une année en Europe, notamment en Belgique, quelle université le conseillez-vous? Et ben voilà, si on peut parler aussi depuis en termes d'équivalence, est-ce que c'est bon, dernièrement, tout récemment, j'ai rencontré une jeune fille qui étudie en Belgique, et qui aide en soins de santé, je crois, et qui nous a laissé entendre que son diplôme de Kinshasa, du Congo, n'a pas été considéré, donc l'équivalence n'a pas été au point.
On va séparer peut-être la question en voilà, deux.
Les conseillers.
Et je donnerai la parole
à Manuel.
À Manuel. Au niveau des études de médecine, comme je ne suis pas médecin, je suis un petit peu perdu là-dedans. Mais les étudiants du Congo, qu'ils viennent de la filière universitaire ou pas, doivent la plupart passer un test d'admission qui va en fait jauger leur niveau académique. Et ce test est fait 2-3 par an par les universités. Et les universités sont complètement maîtres de ce test. Nous, comme gouvernement, nous n'intervenons pas. Une fois ce test réussi, et j'insiste, ça se prépare un test, et ce sont des tests qui sont difficiles parce que les études universitaires, c'est la crème de la crème, c'est le caviar des études, donc ça se prépare, c'est sérieux, et il n'est pas question d'arriver le jour de l'examen avec une demi-heure de retard en disant j'ai des problèmes de transport, donc, ce qui nous arrive de temps en temps. Donc c'est sérieux, une fois qu'ils réussissent ça, tout est ouvert.
Voilà, donc peut-être Emmanuel pourrait vous compléter par la suite. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à cette émission en composant le 081-899-63-94.
Vous avez des préoccupations? Pas besoin d'orientation? Radio Capé réunit des spécialistes compétents dans Capé Service. Toute une équipe de nos journalistes fait le lien entre eux et vous. Santé, emploi, conseil au monde rural, droits du citoyen, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Au Capé Service, de lundi à vendredi, dès 9h dans le Kinshasa. Au Capé Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Voilà, nous avons notre première auditrice qui est en ligne. Je pense bien que c'est une dame, hein. Merveille Bayende de Mbandaka. Bonjour Merveille.
Bonjour.
Vous êtes en Mbandaka et nous profitons de faire un coucou à tous les Mbandakais qui nous suivent en ce moment. Quelle est votre préoccupation?
Bon, ma préoccupation, c'est que je voudrais savoir, une étudiante qui rêve d'aller étudier à l'étranger, est-ce qu'elle a des filières pour qu'elle puisse gagner une bourse? Ma préoccupation.
Voilà, d'accord, je crois que c'est là la question. Et Didier, donc c'est pratiquement la question que j'avais prévu d'ailleurs vous poser, et heureusement, Merveille vient encore de nous réveiller par rapport au niveau de bourse pour qu'on accorde.
Bonjour Merveille. Et j'en profite aussi de saluer tous les habitants de Mbandaka et surtout les jeunes, les étudiants. La question du financement des études est la même préoccupation pour tous. Les parents doivent financer les études. En Belgique et en Europe, c'est aussi une préoccupation quotidienne. Maintenant, la question des bourses, le gouvernement belge met chaque année, au travers de la coopération, un certain nombre de bourses à disposition du gouvernement congolais. Et c'est le gouvernement congolais qui octroie les bourses. Ça, c'est la filière publique. Maintenant, certaines universités octroient des bourses, mais généralement pas pour des étudiants qui souhaitent débuter des études. C'est pour des troisièmes cycles, pour des chercheurs ou des étudiants particulièrement brillants qui peuvent obtenir un financement de cette partie des études, c'est généralement plus court. Mais en Belgique, il n'y a pas de mécanisme officiel de bourse pour un étudiant qui souhaite démarrer des études en Europe ou en Belgique. Ça dépend des financements privés et locaux nationaux.
Oui, il y a Félix Tawaya de Kalemi. Bonjour Félix.
Oui, bonjour Radio Papi.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, j'ai des petites questions que j'aimerais poser à l'invité. C'est surtout nous, les étudiants de l'Est, ici, nous avons des difficultés par rapport à l'obtention de la bourse d'études. Alors, j'aimerais que l'invité qui est là dans votre cabinet, qu'il m'éclaircisse son point. Est-ce que, et quelles sont les conditions pour avoir une bourse d'études gratuite, peut-être à l'étranger? Est-ce que cette bourse-là est octroyée à quel groupe social? Parce que nous ici, bien que nous pouvons avoir des ambitions, parfois nous bloquons, je ne sais pas, et quelle structure qui pouvait nous aider au moins pour avoir ces avantages-là. Et ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est par rapport aux orientations. J'ai appris qu'à l'étranger, dès que vous pouvez terminer au moins 3 ans ou bien avoir une licence au Congo, mais aller à l'étranger, il fallait aussi faire 6 mois. 6 mois, disons, ces 6 mois-là est consacré au moins à la récupération, parce qu'il est prévu qu'il fallait avoir au moins des années de récupération pour que vous soyez éligible dans les études occidentales. Est-ce que l'invité, qu'est-ce qu'il pouvait me dire par rapport à ces hypothèses-là?
Voilà, merci Félix Tawaya. Nous rappelons que vous avez appelé de Kalemi. Didier, vous avez là deux préoccupations de Félix. D'abord sur les conditions. On se rend compte que les conditions sont un peu très drastiques par rapport à l'inscription. Alors, je ne sais pas, Manuel pourrait revenir sur ça. Comment on peut obtenir une bourse gratuite? Ça, c'est selon Félix. Et là, il parlait de 6 mois. Les étudiants restent 6 mois pour permettre à ces que ça mis à niveau.
Bon, on va séparer la question en deux. Bonjour Félix. D'abord, la question de la bourse, je l'ai déjà dit, la bourse, c'est une question nationale. Les bourses sont généralement données par les gouvernements au travers de la coopération.
Chaque année, il y a des bourses.
Que ce soit
en moyenne,
ça je peux pas.
La Belgique, par exemple.
Pour la Belgique, on en a certainement une quarantaine.
Quarantaine
de bourses chaque année. La France fait aussi des bourses. L'Espagne, même le Japon. Donc tout le monde offre des bourses.
Et généralement, il y a un communiqué officiel annonçant qu'il y a des bourses.
Tout ça. C'est canalisé par le ministère congolais de la coopération internationale. C'est lui qui est chargé la plupart du temps, des sélections et de recommander des candidats. Donc là, nous n'intervenons pas, on ne peut rien faire, c'est vraiment un problème.
Donc, à notre niveau, on va orienter les élèves qui viennent à peine de terminer, d'aller au niveau de la coopération internationale,
tout à fait,
pour chaque fois avoir des informations et afférentes, savoir s'il y a des bourses, voilà. Comme ça ils peuvent participer, comme tout le monde, au test, et si jamais ça marchait, pour obtenir leur bourse.
Tout à fait, et moi, je le recommande, ça c'est une bonne vieille recette européenne. d'aller frapper à la porte de leurs députés de circonscription. Hein, d'aller taper à la porte du député qui normalement doit être au courant. Alors, le problème soulevé par Félix est en fait le suivant, c'est que quand l'équivalence est refusée, on conseille parfois aux jeunes de recommencer des études d'une année ou deux années en Europe. Malheureusement, ça n'est pas prévu par la loi, on ne peut pas faire...
Oui, mais qu'est-ce qui fait que l'équivalence ne soit pas acceptée ou ne soit pas accordée, par exemple, parce que nous avons des universités qui fonctionnent en bonne et due forme, en RDC, de grandes universités, et parfois aussi des instituts supérieurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à harmoniser le problème d'équivalence entre la Belgique, par exemple, et la... Nous prenons juste les cas de la Belgique, parce que c'est... Manuel...
Au niveau de l'équivalence, il faut distinguer deux cas, en fait. Il y a l'étudiant qui termine ses études secondaires ici au Congo et qui désire entamer des études supérieures en Belgique. À ce moment-là, c'est l'équivalence de son diplôme d'enseignement secondaire qu'il doit demander. Et là, bon, ça ne dépend pas de nous. Là, c'est le ministère de la communauté française, donc, qui a l'enseignement dans ses compétences. Il y a une commission d'homologation qui décide si oui ou non, en fonction du programme des cours, des points obtenus, cette personne peut obtenir l'équivalence. Maintenant, si la personne a entamé des études universitaires ici au Congo et désire continuer ses études universitaires en Belgique, et a dépassé donc le stade en fait du premier cycle, à ce moment-là, c'est les universités qui décident si oui ou non la personne pourra s'inscrire. Ce n'est plus cette commission d'homologation. Et donc là, les universités, évidemment, analysent de nouveau le dossier de l'étudiant. Et c'est vraiment au cas par cas, en fonction des cours qu'il a suivis ici au Congo, en fonction des résultats qu'il a obtenus, que l'université va décider s'il peut s'inscrire dans telle année ou telle autre année, moyennant des cours supplémentaires ou non.
Donc c'est vraiment une analyse au cas par cas. Mais donc, d'autant pouvait peut-être penser que ça aurait été plus facile, comme c'est le cas avec le passeport, par exemple, quand nous avons tous le passeport biométrique, et ça ne pose pas de problème au niveau de l'aéroport. Et aujourd'hui, avec un diplôme homologué d'abord au niveau de Kinshasa, si, parce qu'il y a plusieurs universités supérieures qui fonctionnent, déjà le problème se pose avec acuité ici, pour arriver à homologuer le diplôme en RDC. Mais est-ce qu'au niveau de la coopération internationale, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord pour que dès qu'un étudiant quitte l'université, le diplôme qu'il a en RDC soit directement homologué en Belgique?
Ça, c'est au niveau de la coopération. Ça, c'est une question plus politique qui devrait être en fait mise sur la table par les politiciens, tant congolais que belges, et qu'ils en discutent. Mais ce qu'on constate régulièrement, et c'est la même chose en Europe, où un étudiant japonais qui vient étudier en Europe, il n'y a pas d'homologation et d'équivalence automatique. S'il souhaite poursuivre des études en Belgique, il envoie son dossier avec ce qu'il a étudié, ses points et ce qu'il veut faire. Et ça, c'est la base, en fait, de la sélection. Il n'y a pas de place. Les universités, ça n'est pas non plus quelque chose... C'est difficile, c'est le sommet de la pyramide. Donc, ça n'est pas non plus fait pour accueillir toute la population. C'est vraiment... C'est élitiste.
Alors, le problème se pose, c'est vrai, l'inscription, il y a des conditions et tout, mais là où les gens parfois ne sont pas du tout d'accord, c'est l'obtention du visa, par exemple. Là, c'est pour moi, ça prend toute une éternité, et nous voyons les étudiants démarcher, faire des tours et des tours au niveau, mais heureusement, on a aujourd'hui la maison Schengen, mais bon, à l'époque, c'était vraiment un parcours de combattant, hein, de calvaire pour obtenir un visa d'études.
Je ne crois pas que c'est vraiment un parcours du combattant, mais j'insiste sur un premier point, c'est qu'il faut que lorsque la personne dépose son dossier, que ce dossier soit complet. Parce que nous avons souvent des dossiers qui sont incomplets. Alors évidemment, la personne doit se présenter, se représenter, parfois se re-représenter pour compléter son dossier. Donc le premier point, c'est de bien regarder les informations qui figurent sur les sites internet, qui figurent à la maison Schengen, afin de produire un dossier complet. Une fois que ce dossier est complet, le dossier est encodé ici, analysé, envoyé à Bruxelles.
Ce ne sont pas les mêmes formulaires hein, avec les récurrents formulaires.
Non, mais c'est différent. En plus, il y a les visas de tourisme ou de
d'établissement,
et ça c'est un visa d'établissement, parce que l'étudiant va passer plusieurs années en Europe. Alors, déjà la base, et là on touche peut-être un problème hein, plus, préoccupant ici au Congo, c'est la difficulté d'obtenir un acte de naissance. Et généralement, on voit qu'il y a beaucoup d'allers-retours en disant « mais j'apporte une attestation de naissance, c'est la même chose ». Non, c'est pas la même chose, il faut un acte de naissance. Et parfois, ça dure longtemps. À côté de ça, il faut le casier judiciaire. Et tout ça, c'est la même chose, en fait, pour tous les étudiants du monde qui souhaitent étudier en Belgique. Il y a 3 ou 4 documents de base, il faut le diplôme. Bon, si l'école congolaise met 6 mois à avoir la copie, la loi sortir le diplôme, nous, Belgique, on n'y peut rien. La loi nous oblige à demander
le diplôme. Nous avons des auditeurs qui sont déjà en ligne. Et bien, nous rappelons encore nos moyens de contact, le 081 890 63 94 pour les appels et le 081 070 2050 pour les SMS.
Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation? Radio Okapi réunit des spécialistes compétents dans Okapi Service. Toute une équipe de journalistes fait le lien entre eux et vous. Santé, emploi, santé au monde rural, droits des citoyens, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Okapi Service, de lundi à vendredi, dès 9h heure de Kinshasa. Okapi Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Prisca Nabintou, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Oui, bonjour Pierre, et bonjour aussi aux auditeurs.
Ben voilà, quel est votre
sujet?
Allez-y.
Pardon?
Allez-y.
J'ai quelques préoccupations. J'aimerais savoir quelle filière les invités pouvaient nous orienter à un étudiant qui a un diplôme en gestion financière et qui devrait faire le troisième cycle en Europe, surtout en France ou en Allemagne. Et aussi, j'ai parler de conditions financières. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est l'étudiant qui va se prendre en charge ou bien il aura un peu de la bourse ou si l'étudiant va se prendre en charge, il faut avoir au minimum combien. Donc, là, je parle de la somme que l'étudiant doit avoir. Et puis, la troisième question, je veux savoir pourquoi est-ce que les étudiants congolais sont surtout marginalisés par rapport à d'autres étudiants. Parce que l'opportunité de bourse, par exemple, au Kenya, en Tanzanie, à Kigali, là, il y a vraiment le gouvernement encourage leurs étudiants à aller poursuivre leurs études en Europe. Pourquoi est-ce que si chez nous, on est en quelque sorte marginalisé? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est tout comme notre situation.
Merci beaucoup, Prisca. Nous prenons Freddy Mwamba de Lubumbashi. Bonjour, Freddy.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Voilà, j'ai 3 petites préoccupations. La première est la suivante. Quel est le niveau qu'on peut avoir en tant que je ne sais pas congolais qu'on peut avoir pour avoir l'accès aux universités étrangères? La deuxième question est celle-ci. Quel est le mode de paie à l'étranger? Je ne sais pas comment ça se passe ici chez nous, si c'est par tranche ou une fois pour toutes. Et la dernière est celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être en contact avec les études ou les universités étrangères pour avoir peut-être l'accès rapidement à ces universités-là?
Merci beaucoup, Freddy. Et nous terminons avec Roger Mouya de l'Université également. Bonjour, Roger.
Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, professeur. Ma préoccupation est en fait que la plupart des enseignants congolais, des professeurs, la plupart, je dirais, ont fait leurs études en Belgique. C'est la Belgique qui leur a délivré des diplômes pour leur reconnaître qu'ils sont aptes pour enseigner. Et certains enseignent en Belgique, d'autres enseignent ici. D'autres encore, qui enseignent en Belgique, reviennent ici pour enseigner. Donc, ce sont des personnes qui sont aptes pour enseigner. Et quand ils viennent enseigner au Congo, ils font un effort pour adapter leurs enseignements par rapport à la réalité congolaise. Et par exemple, des cas de médecins, par exemple, qui viennent, qui étudient les cas d'Ebola et les cas de toutes sortes de maladies qu'on peut trouver dans des pays tropicaux comme Benin. Mais aujourd'hui, quand on pose le problème d'équivalence, ne pensez-vous pas que ça crée un tout petit peu un couac
on estime que bon, les enseignements au Congo ne sont pas des enseignements adaptés. Et pourtant, il y a aussi la mondialisation. Donc, au niveau de l'Internet, on peut voir tout ce qui se passe ailleurs. Donc, je pense qu'il y a quand même un petit effort déjà qui est fait à ce niveau-là. Mais jusqu'à quand on va continuer toujours à poser ces problèmes d'équivalence et bon, on cherche encore des astuces pour dire les problèmes des moyens. Ici, au Congo, peut-être que le pays n'est pas encore structuré comme en Belgique, mais bon, les gens ont leurs moyens, ils savent comment se débrouiller. Quelqu'un peut aller passer 10 ans dans des mines, je ne sais où, il a ses moyens. Forcément, s'il ne l'a pas gardé dans une banque, mais ici, au moins, il l'a gardé dans une activité quelconque. Donc, avec ça, il fait ses payes des études. Mais bon, donc, nous nous posons toujours les problèmes, cette histoire d'équivalence, d'équivalence. Mais pensez-vous pas que ça ressemble un peu du pain.
Merci Roger Mbouya, et nous rappelons que nous avons appelé de Lumbashi. Nous commençons d'ailleurs par cette dernière intervention donc de Roger qui parle de ce paradoxe des enseignants qui ont été formés, en tout cas bel et bien formés en Belgique et qui enseignent au Congo. Mais alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui les diplômes que ces enseignants donnent à ces élèves ou à ces étudiants soient contestés en Belgique? C'est vraiment paradoxe.
Bonjour Roger, je crois que c'est une excellente question et je crois que la qualité des enseignants, vu le nombre d'étudiants congolais qui ont étudié et qui étudient en Belgique, n'est absolument pas en cause. L'équivalence, c'est aussi une question de matière enseignée. Mais là, ça dépasse tout à fait la compétence, en fait, du fédéral chez nous, mais c'est une question qui vaudrait, je crois, la peine d'être mise sur la table du ministre de l'Enseignement supérieur, qu'il puisse aborder cette question avec son collègue, tant de la communauté française que de la communauté, ministre de l'Enseignement de la communauté flamande. Ça, c'est une question technique. L'accès, et ça c'est une question qui revient assez souvent, aux informations. Moi je crois que il y a énormément d'outils qui sont à disposition de tout un chacun ici.
Il y a quand même des sites des
universités. Il y a les sites internet, il y a les emails, les adresses des secrétariats des différentes facultés sont clairement indiquées. Si vous envoyez un email, 9 fois sur 10.
De toute façon, on peut trouver même au niveau de la maison Schengen ou carrément au consul.
Oui, enfin, nous n'avons pas en fait ici une antenne d'information sur les études. Et on renvoie systématiquement vers les sites internet et vers les spécialistes en Belgique. Et il y a énormément d'associations aussi d'étudiants congolais de Belgique.
On peut quand même indiquer ce site-là à nos étudiants, ne plus qu'un site où peut-être ils peuvent aller consulter pour avoir des informations.
Les sites de toutes les grandes universités. L'Université catholique de Louvain a son site. On tape sur Google Université UCL et on obtient toute la nomenclature des facultés. On tape ULB, on a l'Université libre de Bruxelles. On tape ULG, on a l'Université de Liège.
Même l'Université de Mons.
De Mons, j'allais oublier. Oui, presque, et il y en a énormément.
Les polytechniciens, voilà. Souvent au niveau des Mons.
Tout à fait. Et je connais énormément de polytechniciens qui viennent de Mons. Maintenant, une suggestion que moi je ferai à tous les anciens diplômés, en fait, de l'enseignement supérieur belge, et il y en a énormément ici au Congo, c'est de donner un coup de main à ceux qui veulent aller étudier en Belgique en leur donnant des informations, parce que la vie et les études en Belgique, ça n'est pas, ou en Europe, ça n'est pas facile, parce qu'on se retrouve tout seul, dans un environnement où on n'a pas l'habitude, il faut s'adapter, ça n'est pas facile. Et les échecs, ça existe. Il y a ici énormément d'anciens de Louvain, de l'ULB, de Liège, de Mons, qui peuvent aisé.
Oui, peut-être qu'elle aimerait savoir en moyenne c'est combien les
études. Là, je vais demander.
Voilà, demander
à Manuel qui va
pouvoir. Et bien, c'est pour dire est-ce qu'on peut procéder au paiement par tranche, comme ça s'est fait ici chez nous, Manuel Olivier, est-ce que c'est le cas aussi en Belgique, ou peut-être 14 000 francs belges, ou 100 000, je ne sais pas moi, c'est à peu près combien. À l'époque, on parlait de 22 000 francs belges, je ne sais pas, peut-être on est à combien maintenant en moyenne.
Mais il y a une étude assez récente qui a été faite par l'Université de Liège sur le coût des études, donc pour un étudiant étranger, donc ils ont un peu décomposé tout ce que l'étudiant devait payer, donc les frais d'inscription, les frais de syllabus, les frais de logement, les frais de nourriture, les sorties, et ils arrivent à un total de 1 000 euros par mois.
1 000 euros, donc, enfin 12, donc ça fait
12. Ça fait 12 000 euros.
12 000 euros.
C'est une somme assez considérable, mais bon, le niveau de vie en Belgique est tout de même assez élevé, et je crois que ça serait mentir aux étudiants de dire qu'ils s'en sortiront avec un budget moindre, parce que ça sera très difficile de faire face aux aléas de la vie quotidienne en Belgique. Donc autant les prévenir dès le départ.
Donc 12 000 euros, on ne paye pas ça du coup, c'est 1 000 chaque mois.
Oui, non, ici c'est pas évidemment une somme qu'il faut verser d'une seule fois, c'est vraiment le coût quotidien de la vie qui a été analysé par l'Université de Liège. Donc toutes les dépenses, ils ont un peu additionné toutes les dépenses qu'un étudiant ou que n'importe qui pourrait faire.
Si c'est pour compter encore d'autres frais, bibliothèque, recherche...
Non, tout ça a été compté dans cette analyse-là. Bon, évidemment, ce ne sont peut-être pas comptés des frais médicaux, des choses comme ça, si jamais l'étudiant tombe malade, et bon, il peut y avoir des imprévus, un accident, c'est vraiment plutôt un... Donc l'étudiant, ses frais d'inscription, ses frais d'études, ses frais de nourriture, de logement... Le logement est devenu très très cher en Belgique, donc il ne faut pas se leurrer, ça coûte très cher. La plupart des universités disposent de logements universitaires, mais les places sont comptées. Il faut aussi savoir que ces logements, il y a un nombre assez restreint, et bon, c'est les premiers demandeurs qui sont les premiers servis.
Oui. Mais voilà, on va revenir à vous, Didier, il est temps de prendre le dernier.
Je vais juste encore mentionner un petit point sur l'aspect financier. Il ne faut pas mettre la somme de 12 000 euros, comme le laissait suggérer quelqu'un, d'un coup sur la table. Mais il faut prouver qu'on dispose ou qu'on disposera tout au long de l'année 12 000 euros. Donc, ce que nous conseillons de temps en temps, parce que beaucoup de gens n'ont pas de compte en banque ici, c'est de prouver ou de provisionner un compte, et certaines universités gèrent même pour l'étudiant leur budget annuel, parce que bon, hein, j'ai aussi des enfants, au début c'est difficile de gérer son budget. Si on lui donne 12 000 euros, ben, il va peut-être acheter une moto et sortir beaucoup, et dans 3 mois il n'aura plus rien. Maintenant, on parle de 1 000 euros par mois avec des sorties, je ne conseille pas de trop économiser sur les sorties, parce que les étudiants, ça a besoin de sortir de temps en temps, parce que sinon c'est plus un étudiant.
Alors Jean Delacroix de Baraka, bonjour.
Bonjour Didier.
Alors comment allez-vous à Baraka?
En tout cas, nous pensons au taux du jour, hein, au rythme du.
Voilà, alors quelle est votre préoccupation?
Ok, moi par exemple, moi je suis en GD, et je préfère terminer la dernière porte en Europe, donc le troisième graduant. Est-ce que c'est possible? Ou bien, pour étudier en Europe, on est exigé de commencer les études universitaires là même en Europe.
Merci beaucoup Jean, c'est la question d'ailleurs que j'avais posée. Par exemple, quelqu'un qui est en deuxième graduat à Kinshasa et qui aimerait bien terminer son cycle, la seule année qui reste, peut-être en Belgique, possible.
Théoriquement, c'est possible, mais comme je l'ai expliqué, ça va dépendre du pouvoir des facultés, des pouvoirs organisateurs qui vont décider si oui ou non les études suivies ici permettent de passer directement au troisième graduat.
Alors, Étienne Mapindano de Lumbashi, bonjour Étienne. Étienne Mapendano, voilà, donc je parlais de Jean Delacroix qui a parlé de quelqu'un qui aimerait bien faire les études, donc terminer son cycle, et c'est possible, mais tout dépend aussi des conditions, quand on va étudier les dossiers, s'il y a des cours de complément, ou s'il y a de... Bon, voilà, passer un test de niveau, c'est obligatoire.
C'est pas tellement un test de niveau, une fois qu'on a entamé des études supérieures, c'est ou l'université ou l'école supérieure qui, sur base du dossier, décide s'il accepte cet étudiant ou pas.
Mais on peut chercher à avoir aussi des conseils auprès de services étudiants étrangers, avec Manuel. Manuel.
Oui, tout à fait.
Alors, comment les faire? Le service a quand même un site.
Ah ben nous, c'est le site du ministère de l'Intérieur, Office des étrangers, donc le site de l'Office des étrangers, mais bon, ce sont des informations plus relatives à la législation sur les visas, sur l'octroi des visas et les conditions légales. Il n'y aura pas beaucoup d'informations pratiques, en tout cas sur les études.
Voilà, chers étudiants, vous qui aimeriez bien poursuivre les études en Belgique ou dans d'autres pays européens, vous avez des contacts sur les maisons Schengen, avoir des informations ou carrément taper au niveau de Google, ULB, ULC, voilà, vous avez ICF, voilà, vous avez toutes les informations et pourquoi pas l'Université de Mons pour ceux-là qui aimeraient bien faire la polytechnique. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'Université de Mons et qui d'ailleurs pourraient terminer l'année prochaine. Merci Didier Verwald, peut-être un dernier mot à la fin.
Mon dernier mot sera, malgré la difficulté d'organiser des études.
Vous craignez d'être inondé par les étudiants.
Pas du tout. Si on est
des demandeurs
d'établissement, tant mieux. Mais il ne faut pas laisser tomber les bras. Il ne faut pas se désespérer. Les plus déterminés et les plus opiniâtres gagnent toujours.
Voilà, Manuel, dernier mot.
Oui, un tout dernier mot. Donc, je voulais préciser, on a parlé des délais. Et bon, je voulais préciser tout de même qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, on fait tout notre possible depuis maintenant plusieurs années pour réduire au maximum le délai d'analyse du dossier de visa. Donc on ajoute du personnel, on met du personnel supplémentaire dans mon service pendant une période pour que justement ce service tourne mieux et que les demandes soient traitées rapidement. Certaines personnes voyagent à l'étranger pour traiter des demandes sur place ou pour analyser les dossiers sur place, j'en fais partie. Et donc on a fait vraiment un gros effort ces 10 dernières années pour réduire au maximum le délai de traitement pour que les étudiants puissent arriver en Belgique à temps. Donc nous, on a fait tout ce qui était possible. Je crois que l'important, c'est de faire passer comme message aux étudiants qu'ils doivent aussi s'y prendre à temps. Et donc, le dossier pour études doit se construire très tôt dans l'année. Déjà, au niveau des universités, je crois qu'il y a des dates limites au niveau du mois d'avril ou au niveau du mois de mai pour introduire le dossier. Donc, ils doivent introduire leur dossier le plus rapidement possible et ensuite venir très vite à l'ambassade.
Merci beaucoup, Manuel Olivier. Nous rappelons que vous êtes directeur des services étudiants étrangers au ministère de l'Intérieur en Belgique. Et tout le plaisir était pour nous de vous recevoir pour la toute première fois dans ce studio. Alors, Didier Verwald est très habitué. C'est vraiment l'expérience et en tant que consul belge. Il est de temps en temps dans cette émission pour nous éclairer un peu sur certaines questions. À vous deux, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci à Radio Capi.
Merci.